Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous voilà avec notre émission consacrée à l'art et l'iconographie. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Marie-Hélène Calvignac, diplômée d'études approfondies en histoire de l'art. Et elle enseigne l'histoire de l'art à Paris et au Centre international du vitrail à Chartres. Elle assure 3 cycles sur la Renaissance italienne du Quattrocento, l'art du XXe siècle, et la nouveauté de l'année 2008, c'est le thème du renouveau de l'art sacré au XXe siècle. Et c'est pour cela que nous allons faire 2 émissions avec notre invitée d'aujourd'hui. Et nous commencerons l'émission d'aujourd'hui avec l'ENABI, Maurice Denis et les ateliers d'art sacré. Et je laisse à Marie-Hélène Calvignac maintenant la parole afin qu'elle puisse introduire donc les nabis qui sont qui et quoi.
Tout d'abord, bonjour. Alors oui, effectivement, parler des nabis, c'est un merveilleux sujet. Les nabis sont ces peintres qui ont travaillé en France à la fin du 19e siècle, qui sont liés au symbolisme d'une part, qui sont liés à l'art nouveau également, que l'on a appelé de doux révolutionnaires. Donc, pour comprendre un petit peu l'histoire de ce mouvement, il faut, je pense, remonter à Pont-Aven. Il faut aller d'abord en Bretagne, dans ce petit village de Bretagne, dans lequel des peintres qui venaient d'horizons très très différents, que ce soit des peintres académiques, que ce soit, bon, la plupart étaient des peintres impressionnistes. Donc c'est dans ce petit village que, à partir de 1886 et cependant une dizaine d'années, des peintres donc se sont regroupés et ont travaillé ensemble. Alors, bien sûr, ce sont des peintres qui ont des styles différents, mais ils avaient tous un point commun. Il s'agissait de réagir contre le réalisme et contre le matérialisme. C'est un village qui, depuis le milieu du 19e, était connu par les peintres, peut-être pour la nature de sa lumière si particulière. C'était des amis de Corot qui, dans les années 60, avaient découvert ce village. Alors, pour revenir un petit peu au Nabi, il faut préciser, je crois, tout d'abord, que Paul Gauguin va, en tant que jeune peintre, alors impressionniste, va séjourner à Pont-Aven en 1886 pour la première fois. Puis ensuite, il va partir en Martinique. C'est vrai que là, il va découvrir la valeur synthétique des couleurs. Et quand il reviendra à Pont-Aven en 88, il est totalement imprégné alors par l'univers du pays, de la région. Voilà ce qu'il dit, je le cite. « J'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. » Voilà. Je crois que c'est une très belle citation qui condense finalement tout l'expérience plastique d'un Gauguin. Alors il y a, à partir de 88, donc divers artistes qui vont se regrouper et travailler autour de Gauguin, en particulier Émile Bernard, et tous vont trouver alors une forme nouvelle, une esthétique vraiment tout à fait nouvelle, que l'on appelle le synthétisme, c'est-à-dire que finalement on va à l'essentiel. Hein. Il s'agit par la peinture, par les formes, par les couleurs, par les formes qui seront cernées par de très forts contours, et bien d'exprimer finalement une synthèse de la réalité, et par là même d'exprimer l'essentiel. Alors il se trouve que cette même année 1888, hein, où naît effectivement le synthétisme, Paul Sérusier, qui est un jeune peintre, Paul Sérusier séjourne dans cette pension Gloanec à Pont-Aven. Alors Paul Sérusier, pendant tout au long de son séjour, est d'abord à la table des pompiers, ce qui ne lui plaît pas vraiment.
Ah, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs que ce qu'il faut entendre par pompier.
C'est-à-dire les peintres académiques, hein, mmh. Les peintres qui continuent à lécher leur sujet avec énormément de précision, le sens alors de la réalité est quand même l'élément prédominant dans la peinture. Hein. C'est une peinture académique finalement, hein, qui en cette fin du 19e plaisait énormément, il faut bien l'avouer. Paul Sérusier avait d'autres ambitions. Il avait envie, il y a un esprit bouillonnant, il avait envie effectivement de renouveler la peinture. Et donc il a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une sorte d'entretien privé avec Gauguin, qui l'amène se promener dans un bois, un bois assez célèbre que l'on appelle le bois d'amour. Et là, Gauguin lui donne une leçon de peinture. Que Maurice Denis ensuite racontera plus tard, hein, parce que effectivement Paul Sérusier apportera cette leçon de peinture à Paris et la diffusera auprès de ses jeunes amis. Et voilà comment Maurice Denis donc du coup raconte la leçon de Gauguin à Sérusier. Comment voyez-vous ces arbres ? Dit Gauguin. Ils sont jaunes. Eh bien mettez du jaune. Cette ombre plutôt bleue. Prenez-la donc avec de l'outre-mer, peignez-la donc avec de l'outre-mer pur. Ces feuilles rouges, mettez du vermillon. Et c'est à ce moment-là donc que Paul Sérusier réalise une petite esquisse, puisqu'il a dans sa poche quelques tubes de peinture. Il a également le couvercle d'une boîte à cigares. Et bien, il peint sous la dictée de Gauguin. Et il réalise cette toute petite œuvre qui est conservée au musée d'Orsay, que l'on appelle le talisman, et que l'on appelle aussi le paysage au bois d'amour, hein, et qui décrit effectivement de façon synthétique, avec une gamme colorée extraordinairement vivante, chaude, chaleureuse, qui décrit donc ce petit fragment de paysage. Donc, Paul Sérusier revient à Paris, fort de cette leçon, et il rapporte donc à l'Académie Julian, à ses amis, il rapporte bien cette expérience plastique. On imagine bien le bonheur, la joie intense de tous ses amis, c'est-à-dire Bonnard, Ibels, Ranson, Maurice Denis, bien sûr, dont j'ai parlé il y a un instant. Et tous ces jeunes gens qui se rencontrent dans l'Académie Julian, hein, où ils font alors leurs premières armes, tous ces jeunes gens décident de travailler ensemble. Et c'est ainsi qu'ils vont donc créer le groupe des Nabis.
Donc nous verrons après la petite pause musicale comment on a choisi le nom Nabis pour désigner ce nouveau groupe de peintres. Et dans la pause musicale, nous allons voir que la musique n'a pas échappé au renouveau, car nous allons écouter l'Alléluia de la messe de Chartres, créée par Jacques Charpentier pour le millénaire de Fulbert en 2006. Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous voilà à nouveau dans le studio avec Marie-Hélène Calvignac, professeure d'histoire de l'art qui enseigne au Centre international du vitrail à Chartres et à Paris, Et nous étions en train de parler de ce groupe de peintres qui s'est réuni sous le nom de Nabi. Alors Marie-Hélène Calvignac va nous expliquer quelle est la signification de cette désignation.
Ce nom de Nabi a été donné par Casalis, qui était un hébraïsant du groupe, Nabi signifiant les prophètes. Donc le groupe de ces jeunes artistes crée une sorte de confrérie, hein, c'est-à-dire qu'ils sont décidés à retrouver les sources pures de l'art. Donc c'est un groupe qui va travailler de concert. Chacun avait un épithète savoureux qui permettait de le reconnaître. Sérusier, par exemple, était le Nabi à la barbe rutilante. Bonnard, le Nabi très japonard. Maurice Denis était le Nabi aux belles icônes. Madame Ranson était la lumière du temple, etc. Il y avait Valoton aussi qui était le Nabi étranger. Donc ces nabis ont une démarche stylistique qui est cohérente, c'est-à-dire que ils vont, dans l'esprit du synthétisme dont nous parlions tout à l'heure, ils vont abandonner le modelé, le détail précis dans le tableau pour chercher à traduire une intériorité, c'est-à-dire que la peinture n'est plus une description de la réalité tangible, mais une suggestion de l'immédiat, une suggestion de l'essentiel. On traduit le rêve, on traduit l'émotion. Il faut savoir que les nabis également veulent introduire l'art dans le quotidien. Leurs œuvres sont avant tout décoratives. Ils ont aussi des fascinations communes, le japonisme par exemple, hein, qui est bien évidemment à la source de leur réflexion. Ce n'est pas une nouveauté, on sait que les impressionnistes s'étaient déjà intéressés à l'art d'Extrême-Orient, mais ils n'en avaient conservé qu'un certain aspect, alors que les nabis sont sensibles à la stylisation, à l'organisation décentrée, voire éclatée de l'espace pictural. Ils vont être également sensibles à cette utilisation de privilégier de la ligne sinueuse, de la ligne souple, ce trait ondulant à l'aspect décoratif, qui les rattache du coup fortement à l'art nouveau. Et puis tous les nabis sont aussi fascinés par Degas. Degas, on le sait, avait mis en avant des scènes de la vie quotidienne, des scènes de la vie familiale. Et c'est ce pan-là de Degas que les nabis apprécieront particulièrement. Et puis enfin, je pense que comme source commune, il faut également noter Puvis de Chavannes. Puvis de Chavannes est leur maître à tous, ce grand peintre, hein, qui avait été influencé lui-même par les fresquistes du Quattrocento et qui, dans les grandes compositions qu'il réalisa, par exemple à l'Hôtel de Ville de Paris, met en place à partir des années 80-90, met déjà en place donc un art extraordinairement simple, dépouillé, calme. Voilà. Et Maurice Denis a dit à propos de Puvis de Chavannes, j'ai trouvé très beau l'aspect décoratif calme et simple de ses peintures. Cette toute petite déclaration finalement permet, me semble-t-il, de bien comprendre quelle est l'influence de Puvis de Chavannes sur les nabis. Donc voilà, ces artistes effectivement vont travailler ensemble et vont mettre en œuvre une esthétique nouvelle, radicalement nouvelle, où on exalte la ligne en son mouvement, où on exalte la forme également par le vide qui l'entoure, hein, c'est-à-dire que la forme devient l'objet, devient compacte, cerné, et puis on exalte également la couleur, hein, avec des gradations extraordinairement subtiles.
Alors, est-ce qu'on peut dire que les nabis ont une influence sur l'art nouveau, ou est-ce qu'il y a un développement parallèle ou...
Oui, c'est un développement parallèle, effectivement. On est, en cette fin du 19e, on est dans cet esprit, hein, qui touche aussi d'autres artistes, cet esprit de la synthèse. Hein, et la synthèse aboutit, effectivement, à une attention plus précise, une attention nouvelle portée à la ligne et à l'effet de celle-ci dans la composition.
Alors, vous expliquez très bien dans vos cours d'histoire de l'art que le rôle donc de ces peintres du groupe Nabi, et vous allez peut-être maintenant nous parler plus précisément de Maurice Tennis, qui a joué un rôle plus important dans le groupe et qui va jouer un très grand rôle pour l'art sacré, sujet que nous aborderons donc maintenant par la suite.
Oui, alors Maurice Denis, effectivement, dans ce groupe des Nabis, est une personnalité majeure, hein, parce que c'est le théoricien du groupe. Hein, donc Maurice Denis, pour dire quelques mots sur lui, il est entré à l'Académie Julian à 17 ans. Et Maurice Denis était le plus jeune de ce groupe, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extraordinairement doué pour la spéculation intellectuelle, pour l'expression littéraire également. Il a publié un manifeste Nabi, qui est dérivé des idées de Pont-Aven, et c'est dans ce premier manifeste qu'il écrira une phrase qui est restée célèbre et qui est vraiment, qui joue un rôle de manifeste en cette fin du 19e, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Alors, Maurice Denis ira en Italie, hein, comme la plupart des peintres de l'époque. Il fait plusieurs séjours du reste en Italie. Il est proche également d'André Gide. Et Maurice Denis est un artiste prolixe. Hein, c'est vraiment un travailleur infatigable qui était apprécié par ses amis, par ses proches. Hein, on disait de lui qu'il rayonnait spirituellement. C'était quelqu'un d'autoritaire, mais d'une autorité très 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 chaleureuse. Et puis c'était vraiment un intellectuel, c'est-à-dire qu'il avait des curiosités intellectuelles extraordinairement diversifiées. Et Maurice Denis, effectivement, a une prédilection très affirmée très tôt, hein, pour les thèmes religieux. Les thèmes religieux qu'il va traiter directement, hein, ou alors qu'il va traiter par le biais de l'exaltation de la famille chrétienne. Hein, et il va produire un nombre considérable d'images intimes teintées d'un humour très tendre, d'un univers extraordinairement sensible.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc maintenant, nous sommes arrivés à Maurice Denis et nous allons arriver dans la troisième partie de notre émission aujourd'hui, qui passe très vite, aux ateliers d'art sacré créés par Maurice Denis et Maurice Denis, et nous entendrons avant de chaque charpentier messe de Chartres le Sanctus.
Thank you.
Chers auditeurs, Marie-Hélène Calvignac vient de nous parler des Nabis et de Maurice Denis et elle va nous expliquer maintenant la genèse des ateliers d'art sacré créés par Maurice Denis, entre autres. Marie-Hélène Calvignac.
Oui, avant de vous parler des ateliers d'art sacré, j'avais envie de vous décrire une petite œuvre de Maurice Denis pour essayer de créer un climat visuel. Hein. Là, les documents nous manquent. Maurice Denis, en 1889, a réalisé un tableau, La montée au calvaire, qui est un tableau extraordinaire que je vais tenter de vous décrire. Imaginez une composition qui s'organise autour d'une diagonale qui part de l'angle inférieur droit du tableau, qui monte vers l'angle opposé, et en haut, le regard est attiré par la silhouette du Christ qui est agenouillé, qui porte la croix. Dans l'angle inférieur droit, il y a une procession de religieuses qui avance vers lui, la première venant enlacer le Christ, et plus loin, sur la ligne d'horizon, il y a l'armée romaine qui avance. Alors, tous les personnages ne sont que des silhouettes sombres qui se découpent sur un fond de paysage, un paysage très très stylisé, hein. Il y a deux masses simplement, un premier plan quasiment vertical, comme une sorte de colline, sur laquelle se trouve le Christ, une colline piquetée de minuscules fleurs jaunes et une colline qui surplombe une plaine qui est baignée d'une lumière vaporeuse. Et toutes les silhouettes donc des personnages sont noires, à l'exception de celle du Christ. Et celui-ci, il est vêtu d'un vêtement clair et c'est le seul personnage tourné vers le spectateur. Mais c'est un visage centré qui nous fait face. Voilà. Donc ça, c'est un climat, hein, j'ai envie de dire, d'un tableau religieux de Maurice Denis, cette montée au calvaire. Un tableau qui trouve certainement des équivalences plastiques avec la poésie contemporaine. Maurice Denis était fasciné par le symbolisme littéraire d'un Maeterlinck, d'un Verhaeren, d'un Baudelaire, d'un Verlaine. Et du reste, ce tableau monté au calvaire, la montée au calvaire, aurait été peint par Maurice Denis alors qu'il venait de découvrir un recueil de poèmes de Verlaine, Sagesse, qui venait d'être réédité à cette date. Voilà, donc la technique qui est élaborée à Pont-Aven par Émile Bernard et Paul Gauguin et qui sera donc explorée par les Nabis s'applique parfaitement à ce tableau. On peint de mémoire. On simplifie, on recompose, on unifie.
On va à l'essentiel.
Voilà.
On traduit une atmosphère.
Voilà.
On crée des sensations.
Exactement. Donc, Maurice Denis et l'art religieux, effectivement, c'est un thème tout à fait intéressant, très riche. Maurice Denis a réalisé des vitraux de Notre-Dame du Vésinet. Il a travaillé également à Notre-Dame de Rincy, qui avait été construite par les frères Perret dans les années 20, hein, celle qu'on appelait la Sainte Chapelle du béton armé.
Voilà, c'est la première église, sans doute, où le béton va devenir le matériau de construction, oui. Brut, non recouvert, avec des murs lumineux préfabriqués, un décloisonnement de l'intérieur, une concentration sur le maître-autel. Et c'est devenu une église de référence donc, pour toutes les constructions modernes d'églises nouvelles.
Oui, oui, tous les architectes, effectivement, du XXe siècle se référeront à cette œuvre extraordinaire des frères Perret. Maurice Denis, toujours à la fin du XIXe siècle, dans ce contexte d'une définition de l'art religieux qui est en train qui se pose hein, depuis, du reste, un bon nombre d'années. En 90, Maurice Denis écrit « L'art est la sanctification de la nature ». C'est-à-dire qu'il va jeter les bases de sa définition du symbolisme pictural. Il établit une distinction entre la peinture religieuse de type littéraire, c'est-à-dire narrative, à base de motifs imitatifs, et ce qu'il a appelé, ce qu'il développe, c'est-à-dire un art religieux symboliste, dont les formes, les couleurs expressives en elles-mêmes sont directement porteuses d'émotions. C'est ce que l'on disait effectivement tout à l'heure. Et pour retrouver la vérité de la beauté religieuse dans la peinture, eh bien, Denis va se référer en permanence à l'art des primitifs italiens, à l'art du Moyen-Âge, des artistes du Moyen-Âge.
Parce qu'il a fait des voyages en Italie, oui. Et il est revenu donc avec ces images, des paysages, qu'il va essayer de voilà. retranscrire dans ces tableaux. Donc, à quel moment il va sortir du groupe des Nabis pour fonder avec Georges Desvalières les ateliers d'art sacré?
Alors, les ateliers d'art sacré sont créés en 1919. Voilà. C'est-à-dire, dans ce climat de reconstruction, les églises ont été, on le sait, détruites par la guerre. Et il va créer avec Georges Desvalières ces ateliers dans lesquels seront formés des artistes chrétiens. Hein, c'est-à-dire que il s'agit de renverser l'académisme dévot hein, pour offrir une solide formation artistique, mais aussi intellectuelle, spirituelle, aux artistes qui sont attirés par l'art religieux. Hein. C'est pas vraiment une école, hein, c'est-à-dire ce sont plutôt des ateliers. Hein. Le terme effectivement était bien choisi. On y pratique un apprentissage comme au Moyen Âge. Hein. Il y a une structure qui est une structure corporative, et c'est dans l'esprit de Maurice Denis cette structure, cette école qui permettra, qui devra contribuer à la création d'un esprit nouveau de l'art chrétien.
Parce que ces ateliers vont donner aussi donc une solide formation, je suppose, religieuse et spirituelle pour voilà. aider les peintres à concevoir des tableaux religieux dans le cadre qu'on leur imposera dans les chantiers.
Voilà.
Oui. Voilà. Donc nous avons vu la genèse des ateliers d'art sacré, et comme le temps a passé très vite, nous allons dans une prochaine émission aborder donc le travail des ateliers d'art sacré. Et nous allons parler d'un personnage très important pour le renouveau de l'art sacré, le père Couturier. Ça sera dans une prochaine émission. Chers auditeurs, nous terminerons notre émission en redonnant peut-être, pour les personnes qui voudraient savoir plus, suivre les cours de Madame Marie-Hélène Calvignac, qui traite de la Renaissance italienne en passant par l'art du XXe siècle pour arriver au renouveau de l'art sacré au XXe siècle. Des cours au Centre international du vitrail, renseignements et inscriptions toujours possibles. Les cours viennent juste de commencer au 02 37 21 65 72, Centre international vitrail à Chartres. Et nous terminerons notre émission avec une pièce de la messe de Jacques Charpentier, la messe de Chartres, créée pour le millénaire de Fulbert en 2006. Et je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour... voir la suite des ateliers d'art sacré. Je remercie beaucoup Marie-Hélène Calvignac de nous avoir donné ces informations très intéressantes sur l'évolution, et à très bientôt, chers auditeurs de Radio Grand Ciel.
Merci.